Je suis actuellement sur la conférence « L'intérêt supérieur de l'enfant, les conséquences à long terme de la crise sanitaire sur la jeunesse, bilan, remède et perspective » avec Sonia Delahaye, Alain Gorius, Marie Grenet, Jean-Pierre Lepris, Joël Richardière. Joël Richardière, tout d'abord, au sortir de cette conférence, vos impressions sur l'ambiance même et ce qui a été exposé.
Donc c'est vrai qu'on a évoqué des problématiques, on a aussi évoqué des solutions et on voit bien que dans le public, il y a ce besoin de solutions au quotidien dans son rapport avec les enfants, que ce soit pour les enseignants ou les parents d'élèves ou les parents avec leurs enfants. Et c'est vrai que pour moi, avec la pédagogie Arscola, on essaie vraiment d'aider les adultes à trouver des solutions ou à expérimenter justement l'art-thérapie, la nature d'une autre manière pour réveiller leur potentiel à eux et retrouver confiance. On a beaucoup parlé que les parents aient confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a en commun. D'arriver à ce que les parents ne doutent pas ou de leur intuition quand ils ont des confirmations, ce qui ne veut pas dire d'éjecter le point de vue des médecins et des spécialistes, mais qu'ils osent écouter leur cœur lorsque l'enfant a des problématiques, qu'elles soient au niveau cognitif ou au niveau santé ou au niveau relationnel, et puis de s'ouvrir à toutes sortes d'outils qui existent et qui demandent quand même un certain apprentissage, évidemment, et une expérience. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a un besoin réel pour l'accompagnement des enfants dans des structures. Donc je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Oui, parce que, bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on en arrive à croire que l'IEF aujourd'hui, alors quand je dis IEF, c'est donc l'école à la maison, l'école faite par les parents. Elle n'est pas du tout interdite, au contraire, elle existe toujours. Simplement, il y a un nombre, pendant l'époque du Covid, il y avait 72 000 enfants qui étaient en école à la maison. Aujourd'hui, il y en a 35 000. Pour toutes sortes de raisons, surtout le fait qu'on demande des dossiers énormes, mais vraiment, on demande à ce que les parents établissent un projet pédagogique, argumentent pourquoi ils veulent faire l'école à la maison, etc., etc. Et très peu de dossiers actuellement, selon les académies, hein, c'est variable d'une académie à l'autre, très peu de dossiers sont acceptés, surtout pour les enfants petits de 3 ans. C'est un parcours du combattant, mais c'est toujours possible. Et il faut garder espoir parce que des sénateurs, des députés se battent pour aider à ce que ça s'assouplisse et à ce que l'IEF puisse à nouveau être au service des parents et de leurs souhaits. C'est les parents qui décident. Hein. Et aussi pour être conscient qu'en freinant à ce point l'IEF, la France se met en dehors du pacte international des droits sociaux, économiques et culturels qui ont été signés par la France. Donc il y a un article 13.3 sur lequel l'ONU revient en mettant face à ça la France parce qu'elle n'est pas en accord avec ce qu'elle a signé. Donc il faut avoir confiance que c'est possible. On parle aussi des micro-écoles. Donc les micro-écoles sont tout à fait légales. Ce sont des petites écoles que l'on peut ouvrir pour 6 enfants et l'enseignant. Enseignant qui est validé par l'éducation nationale, hein, évidemment. Ce sera un projet qui devra être validé aussi par l'académie du secteur géographique. Et par contre, on pourra fonctionner avec 6 enfants et un enseignant, ou même avec un peu moins d'enfants et un enseignant, dans les locaux familiaux, ou tourner dans une famille et une autre, en sachant évidemment que ce sera aux parents de se cotiser pour rémunérer l'enseignant. Mais en tout cas, ça permet de démarrer quelque chose. Parce qu'il est vrai, on en a parlé, que c'est un défi de mettre en place des écoles hors contrat. Mais ceci dit, c'est possible. Et là aussi, il y a beaucoup d'aides autour. Là, les noms m'échappent un peu sur le moment, mais il y a vraiment des structures qui soutiennent, qui aident la mise en place des écoles hors contrat. Et puis, il y a des écoles hors contrat et sous contrat qui sont super, avec des enseignants qui arrivent à accueillir les enfants avec un bel état d'esprit et à mettre en place des choses vraiment intéressantes, même dans le public. Donc, là aussi, c'est l'humain, en fait. C'est aller à la rencontre de l'humain qui va nous permettre d'éviter aux enfants d'être arrêtés par des freins qui ont été mis en place ces dernières années et puis depuis déjà plusieurs dizaines d'années par les autorités et qui, en fait, font que l'enfant ne développe pas toute sa cognition, ne développe pas toutes ses connaissances et ses facultés. Et que du coup, il va rester un mouton.
Et sous pression, un mouton sous pression.
Ah oui, c'est vrai, un mouton sous pression, parce que, comme le disait Sonia, l'autorité qui est mise en place avec des classes à 30 et tout ça est très difficile à gérer. Et il arrive souvent que, quelque part, il faut être très doué, quoi. Ou alors avoir un état de grâce un peu. Il y a des gens qui l'ont, hein. Et pour arriver à gérer des classes aussi chargées, avec en plus de l'administratif à faire pour les évaluations, je ne parle même pas de l'administratif, du poids administratif pour les directeurs ou directrices. Donc ça pose problème. Et c'est vrai que certaines associations s'associent vraiment avec les enseignants, comme SOS Éducation, qui fait un énorme travail avec les enseignants, qui sont mécontentes de cette situation. Et moi, je trouve que c'est important de ne pas critiquer les enseignants, mais de s'associer parents-enseignants pour faire bouger les choses au service des enfants et de ne pas se mettre en conflit, c'est les enseignants qui ont tort, c'est les parents. Non, il y a plein de solutions, on l'a vu, hein, les parents sont avant tout responsables de leurs enfants, ça c'est le droit basique. Et il faut que les parents se valorisent par rapport à ça. Parce que...
Vous aviez insisté sur le rôle de l'adulte, hein, des parents.
Oui, parce que on en a presque toutes parlé, on voit que les parents, Marie en a parlé par rapport à la santé, puisqu'elle est pédiatre et elle voit beaucoup de parents qui doutent de ce qu'ils ressentent, alors qu'ils sont eux-mêmes présents constamment auprès de leur enfant, et c'est eux qui peuvent au mieux savoir expliquer ce dont a besoin ou ce que peut supporter un enfant. Enfin, c'est très très important que les parents reprennent leur place sociale et surtout la confiance en eux. Y a plein de choses aussi qui peuvent aider à ça, hein. Nous, avec la pédagogie hors scolaire, on soutient cette démarche, mais il y a plein d'autres choses qui vont aider les parents à retrouver confiance en eux. Et puis aussi les enseignants, que les enseignants se sentent aussi soutenus et par les parents et par différentes associations pour qu'ils puissent faire remonter leurs desiderata et qu'on ne leur impose pas des charges administratives notamment et de se soumettre à des programmes qui ne sont plus adaptés à l'âge des enfants et aux enfants, sans même parler des écrans ou de la sexualisation qu'on n'a pas évoqué ce matin, mais qui va être évoqué pendant ce week-end et qui est vraiment un sujet qu'il faut comprendre, qui n'est pas polémique dans le sens politique, mais qui est simplement d'avoir du bon sens pour comprendre qu'un enfant, un petit enfant à qui l'on montre des images pornographiques va être très choqué, il va être effracté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, avec la compréhension qu'il a au niveau de son cerveau, intégrer ce qu'on lui montre. Et donc, il va y avoir une scission, une cassure entre le fonctionnement de son cerveau pour protéger le choc qu'il a vécu et qu'il ne peut pas gérer, qu'on appelle effraction, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une déchirure au niveau de son cerveau qui va effracter et qui va faire qu'il va y avoir une zone du cerveau qui va être mise à part. Alors après, c'est quelque chose qui est aggravé si c'est répété, s'il y a des actes évidemment qui vont dans ce sens, si les enfants entre eux, parce que quand on montre ça aux enfants, évidemment les enfants, les petits sont dans l'imitation, donc ils risquent de faire des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé si on ne leur avait pas montré des choses comme ça. Les plus grands sont choqués. Moi j'ai des enfants qui vomissent, enfin des enfants qui, de retour de l'école où on leur a montré des choses comme ça, notamment en CM1 où on met le paquet, reviennent et sont malades à vomir, quoi, parce qu'on les a choqués. Et ça veut dire qu'après, au niveau relationnel, de plus en plus d'ados ne veulent plus de relations, ne veulent plus de relations sexuelles, ne croient plus en l'amour. Bon, évidemment, après, il y a tout le débat autour du genre et de tout ce qu'on fait entendre ou voir aux ados là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a l'amour qui, du coup, enfin l'amour, la fraîcheur de l'amour que vit normalement l'adolescent et qui va lui donner justement envie d'avancer dans la vie, qui va lui donner confiance dans le relationnel et qui, du coup, est entaché de tout ce qu'on a balancé sur la Enfin, moi, j'utilise le mot pornographie parce que, hors contexte, donner des détails techniques sur des relations qui ne sont même pas les relations normales, mais qui sont des relations parallèles, enfin, des façons d'être en relation sexuelle qui, pour moi, sont liées à la pornographie, je suis désolée, ça n'a pas à entrer dans le monde de l'enfance. Donc, évidemment que quand on accumule ça avec l'usage exagéré des écrans, trop tôt, puisqu'on sait que normalement jusqu'à 6 ans, là aussi il y a plein de démarches scientifiques et de bon sens qui montrent que ça abîme les enfants, ils n'apprennent pas sur un écran, quel que soit l'écran, ils ont besoin de la relation, ils sont dans la phase où ils ont besoin de la relation à fond, de l'attachement, et encore à l'école élémentaire, ils ont besoin de s'attacher à leur maîtresse, la maîtresse, c'est quelque chose la maîtresse ou le maître. Donc ils sont dans le relationnel à fond et les écrans, ils entraînent dans un monde parallèle alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore pris leur place concrète sur Terre. Donc, concrète, dans la vraie vie, il faut déjà qu'ils aient leur repère pour passer dans le virtuel. Évidemment, quand on touche aux jeux vidéo, là encore une fois, on entre dans quelque chose de problématique parce que ces jeux vidéo créés par des adultes pour des raisons commerciales, hein. Moi, j'ai été amenée à faire des débats avec des concepteurs. Enfin, voilà, ils ne veulent pas rentrer dans l'approche pédagogique du tout. Faire des jeux vidéo où le principe est de tuer pour gagner, et ce n'est que ça, ruser pour tuer des personnages humains, c'est quand même très, très grave, quoi. J'avais eu l'occasion de partager avec des personnes qui faisaient la formation aux États-Unis des GI américains, un colonel notamment qui avait écrit beaucoup là-dessus, et qui disait, mais ce qu'on propose dans les jeux vidéo, c'est l'entraînement pour les GI, mais un entraînement qui est à la limite de l'humain et qui les pousse à pouvoir tuer, même dans des circonstances où, enfin, de leur fermer le cœur et qu'ils peuvent accepter de faire des choses qui sont inacceptables humainement. Donc, faire ça à nos enfants, mais enfin, là, on est vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Donc, c'est encore une fois aux parents de réagir, d'une part de ne pas acheter ces choses-là, et puis de donner leur point de vue, etc. Parce que là, c'est à la maison, ça. Donc là, c'est aux parents de poser le contrôle parental, même si on sait que les ados un petit peu grands savent les craquer, mais bon, ça, c'est pas grave, on en prend un autre. Et puis de poser des limites, quoi. Et c'est là où il faut savoir avoir au préalable créé une complicité avec l'enfant, lui expliquer les choses et que quand on pose des limites, ce n'est pas pour créer du tort, mais au contraire, pour des raisons que l'on peut expliquer et que l'enfant peut comprendre. C'est important que l'enfant comprenne ou l'ado comprenne pourquoi on lui dit non, pourquoi on lui met un contrôle parental, pourquoi on lui dit à partir de telle heure, pour la nuit, non, je suis désolée, il y a un garage à smartphone, tu laisses ton smartphone en dehors.
Excusez-moi, c'est une forme d'autorité, mais qui n'est peut-être pas une autorité non plus.
Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, vous vous disiez qu'est-ce qu'on a fait ce matin, et on a discuté notamment du mot « autorité parentale », parce que pour moi, c'est une notion très importante. Après, le mot « autorité » peut déranger, parce qu'elle est souvent presque à but de pouvoir, en fait. Elle n'est plus une autorité bienveillante, elle est une autorité pour avoir la paix, pour obliger l'enfant à se soumettre, et ça, c'est horrible. L'enfant, au contraire, on doit respecter sa dignité, l'aider à s'exprimer, etc. Donc, et puis, les 30 élèves par classe, évidemment, qu'on évoquait aussi, qui créent des problèmes de relations et d'organisation. Mais ça se résout avec des démarches pédagogiques adaptées. On peut, moi, j'ai des élèves enseignants qui arrivent à créer des façons d'approcher l'organisation de leur classe pour qu'il y ait plusieurs activités en même temps et que les enfants soient suffisamment intéressés par ces activités pour qu'il n'y ait pas de chahut, éventuellement parler tout bas, et avancer. Et justement, avoir un bon apprentissage, lecture, écriture, calcul, puis les autres notions. Et qu'arriver en sixième, ces enfants-là aient une certaine autonomie parce qu'ils ont été habitués en petits groupes. Donc ils savent du coup mieux gérer leur emploi du temps, mieux gérer aussi les différents espaces, les différents profs. Et du coup, on est gagnant-gagnant sur tous les terrains. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas appris dans la formation classique et qui implique aux enseignants de faire des efforts en plus de leur emploi du temps, en plus de leurs investissements personnels pour se former, apprendre ces méthodes comme moi je les enseigne, mais beaucoup d'autres enseignent des choses très intéressantes aussi.
Zoël Richardière, vous avez cité Nelson Mandela également, qui colle tout à fait avec la façon dont vous avez d'aborder donc, le sujet.
Voilà, donc je peux redire cette phrase qui lui est attribuée. Encore une fois, je pense que c'est juste, mais des fois, vous savez, on attribue des phrases à des gens connus et quand on creuse, on s'aperçoit. Donc cette phrase, c'est « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Donc moi, je suis pédagogue, bon, art-thérapeute et sophrologue aussi, mais avant tout pédagogue, et je suis convaincue dans toutes mes cellules qu'effectivement, l'éducation que l'on donne aux enfants est une arme, entre guillemets, c'est-à-dire que si on abîme l'éducation que l'on donne, qu'on utilise l'éducation pour manipuler les enfants, on peut les abîmer énormément et on en a vu des exemples dans l'histoire à différentes périodes. C'est assez facile de les rendre violents ou de les abrutir ou de les endoctriner dans telle ou telle idéologie. C'est très facile puisque normalement l'adulte est censé les respecter et être au service de leur développement en tant qu'être à part entière. Évidemment, on peut inverser les choses et c'est là où le mot autorité peut être blessant. Quand on abuse de ce pouvoir sur l'enfant. Mais par contre, l'éducation, et c'est là où moi je remercie les enseignants d'avoir le courage de tenir bon dans tout ce qu'ils vivent, et je remercie tous ces enseignants qui font preuve de persévérance en allant se former à gauche, en allant se former à droite, en formant des associations, en collaborant entre eux pour fonctionner autrement. Et permettre à nos enfants contemporains du 21e siècle d'avoir une éducation pleine de sens, pleine de respect et de créativité. Et qu'on voit que ces enfants qui ont vécu ces écoles, ces crèches, ces maternelles, ces écoles, ces collèges, eh bien sont des beaux adultes qui arrivent à avoir une autonomie, à ne pas se laisser déstabiliser par des paroles, mais à regarder les actes qui vont avec, et puis qui ont la capacité de s'adapter à mille et une situations, ou même de passer des examens en ayant du bon sens, par exemple. En général, ce sont des enfants, souvent, qui font des études assez longues, mais qui les ont choisies, qui ont une vocation, et qui savent pourquoi ils veulent faire ça. Bon, après, il y en a qui peuvent être avec des études plus courtes, mais pour eux, ça a du sens, c'est une passion. Et donc, ils vont faire passer cette passion à d'autres, quelle que soit leur activité. Et donc, ça va enrichir le monde. On a besoin de gens qui soient manuels, on a besoin de gens qui soient intellectuels, on a besoin de gens à tous les niveaux de la société. Et donc, aucun métier n'est à dénigrer. Lorsqu'un enfant a une passion, que ce soit pour la nature, pour la danse, pour quoi que ce soit, j'ai parlé des différentes formes d'intelligence, on les retrouve là aussi, c'est important de l'encourager et de le soutenir pour qu'il puisse avoir le bagage nécessaire pour ensuite l'amener dans le monde et que notre monde soit plus riche grâce à lui.
Jean-Pierre Lepris, au sortir de la conférence, alors vos impressions sur ces échanges et sur l'atmosphère même?
Écoutez, je suis un peu consterné finalement parce que je sens que mon point de vue n'est pas compris et je peux l'expliquer simplement. Je pense qu'il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'éduquer ou de concevoir l'enfant et l'intérêt de l'enfant. D'une part, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ma question ne se pose pas à ce niveau-là, mais elle se pose au niveau de la représentation que j'ai de l'enfant qui va générer une position surplombante puisque c'est moi qui vais dominer cet enfant de toute façon. Je vais lui inculquer à mon insu et en voulant bien faire le fait que l'enfant est incapable et qu'il ne peut pas par lui-même exister si je ne suis pas là pour le soutenir ou le protéger. C'est pour ça que à plusieurs reprises, j'ai essayé de parler de la protection ou de l'éducation de la femme, ce qui devient scandaleux, mais lorsque je dis l'éducation ou la protection de l'enfant, là, c'est accepté. Et donc, il y a quand même un travail à faire sur la réflexion sur le fait que le terme « enfant » inclut lui-même une position de mineur, d'incapable, et ne serait-ce que l'étymologie « enfant » qui vient de « infant », c'est-à-dire celui qui n'a pas la parole. Donc, quelqu'un qui n'a pas la parole et donc je m'autorise du coup à la prendre pour lui.
Jean-Pierre Lepris, vous avez parlé également du fait d'embrasser un enfant. Et vous-même, vous étiez, impliqué dans cette réflexion.
Oui, parce que j'ai reproduit ce que j'ai vécu moi-même et je trouvais tout naturel que dans ma culture, on embrasse les enfants. Surtout les enfants au sens de fils et filles, parce que le terme enfant a deux sens chez nous. C'est d'une part la filiation et d'autre part un âge donné. Donc dans le cas de la filiation, enfant-filiation, c'est-à-dire fils ou fille, dans la famille, on embrasse ses enfants parce que ça fait partie de la culture. Et puis je viens de découvrir qu'en fait, c'est pas accepté dans toutes les cultures, tardivement. Et du coup, je m'interroge sur les 80 ans qui ont précédé, où j'ai vécu dans cette situation où j'ai été embrassé et j'ai embrassé. Et finalement, je pense que les cultures qui n'embrassent pas leurs enfants ne sont pas forcément plus mauvaises pour le développement, effectivement, de ces personnes. Et donc, je trouve que c'est quelque chose à partager et à signaler. C'est ce que j'ai fait.
Le terme « enfant de compagnie », Jean-Pierre Lepris.
Alors, je le prends de Yves Bonnardel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La domination adulte ». Et donc, il compare un petit peu les relations que j'ai avec un animal de compagnie et qui, en fait, se reproduit un petit peu avec l'enfant de compagnie. C'est-à-dire que bien des familles ou des mamans ou même des pères n'ont pas d'existence autonome s'ils n'ont pas un enfant. Et l'enfant prend la place de l'animal de compagnie. C'est-à-dire que cet animal, je le nourris, je m'occupe de lui. Cet animal de compagnie ne peut pas vivre sans moi, et y compris sur le plan affectif, puisque je lui donne de l'affection et il me témoigne de l'affection. Et ce processus, en fait, est parfaitement observable chez l'enfant de compagnie.
D'après vous, Jean-Pierre Lepris, est-ce qu'il y a une accoutumance à recevoir l'information en général ?
Ah ben forcément. Les informations me modèlent. C'est sûr que je suis dans un monde qui donne des informations. Alors, ça, c'est une donnée. L'autre donnée, c'est lorsque j'ai, ça a été évoqué là, ce panel-là, lorsque j'ai appris l'impuissance, je suis soumis à cette information. L'information va toujours exister. Et généralement, l'information, un peu partout, elle est entre les mains des dominants. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour, soit par exemple, entretenir ma peur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur est plus facilement dominé que quelqu'un qui n'a pas peur, qui observe. En fait, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est pas tellement le milieu, parce que le milieu, j'ai un peu d'influence sur lui, mais c'est plutôt moi, comment je reçois les influences de ce milieu. Là, j'ai une totale maîtrise sur la façon dont je reçois les événements, alors que j'ai peu d'influence sur le milieu extérieur. C'est pour ça que je préfère que des juvéniles soient et devant eux des modèles de personnes autonomes, c'est-à-dire qui se gouvernent elles-mêmes dans un milieu donné parce que personne ne vit nulle part, que d'être protégé d'eux. Parce que je ne pourrais jamais protéger quelqu'un de tout ce qui l'entoure, y compris de l'information. La seule chose sur laquelle j'ai beaucoup de prise, c'est la façon dont je suis moi-même impacté par ce qui m'entoure. Et je peux effectivement, personnellement, dans un milieu hostile, me construire une place un peu sécure, tout simplement, si j'ai été entraîné à ça et si je l'ai observé chez les gens qui sont autour de moi. Et lorsque j'ai des parents protecteurs, des éducateurs protecteurs, des psy protecteurs, des médecins protecteurs, etc., etc., que Ivan Illich appelait des professions mutilantes, parce qu'effectivement, elles m'empêchent de moi-même prendre possession de la maîtrise de ma propre vie.
Ce message, cette façon de transmettre votre réflexion, comment vous percevez le retour ? Est-ce qu'il y est ce retour ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je parle pour les enfants, les ados que vous connaissez bien.
Alors, le retour, il est mitigé, parce que l'influence de la structure éducateur-éduqué, administrateur-administré, colonisateur-colonisé, dompteur-dompté, éducateur-éduqué, est tellement prégnante que je ne peux pas penser en dehors de cette structure. Donc il y a beaucoup de personnes qui effectivement recherchent une éducation alternative, c'est-à-dire faire une éducation qui soit plus agréable qu'une éducation désagréable. Et là il n'y a pas photo, je veux dire, il n'y a pas besoin de discuter. Pourtant c'est ce qu'on fait depuis des décennies, si ce n'est pas des siècles. Alors que la question, c'est plutôt, pour moi, non pas une éducation alternative, mais est-ce qu'il existerait une alternative à l'éducation ? Voilà. Et là, effectivement, nous avons quand même un groupe qui actuellement comporte à peu près 3000 personnes et qui réfléchit sur ces questions. Et j'espère que vous pourrez donner la référence. Si vous souhaitez vous informer là-dessus, c'est tout simplement, pour l'instant, education-authentique.org. Voilà. Là, il y a à peu près tout ce qu'il faudrait savoir. Si cette façon de penser, c'est-à-dire, c'est pas la manière, c'est pas le comment, mais c'est la réponse à la question pourquoi.